bonjour à tous. Surprise de taille cette semaine, car j'ai eu la chance d'enregistrer cette émission depuis la Station Spatiale Internationale. Je suis actuellement en train de faire une sortie dans l'espace en combinaison avec mon cordon et mon gros casque. Si seulement vous pouviez voir la beauté de la planète Terre. Puis d'ici, on dirait bel et bien une orange toute bleue. Ah mince. Oh, c'est quoi ce son? Plus d'oxygène. Comment ça, plus d'oxygène? Mais enfin, je suis sûr d'avoir fait le plein avant de sortir. Bon, alors, il faut pas que je panique. Hein, il faut que je boive ça comme des gens. Non, attends, avec le rangeur de secours, là. Là, attends, c'est le bouton, là. Celui-là, près du casque.
Bonjour et bienvenue à tous dans Les Planètes, votre podcast de musique de film. Pour ce 10e numéro, je vais avoir le plaisir de vous passer une sélection, comme d'habitude, très personnelle de musique qui évoque l'espace et le vide intersidéral. Pas mal de science-fiction donc, mais surtout de belles pistes autour de la question « Comment sonoriser le vide ?». Le premier exemple ne pouvait donc pas être autre chose que 2001, L'Odyssée de l'espace, le film le plus célèbre de Stanley Kubrick, et un monument du cinéma. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à la place de la musique classique que nous connaissons tous, il y avait à l'origine un compositeur, Alex North, avec qui Kubrick a travaillé au départ sur Spartacus. Alors lorsqu'on monte un film, il est toujours très utile de placer sur les images des musiques temporaires, que l'on remplacera plus tard par la musique composée exprès pour le film. Cette musique temporaire, que l'on appelle donc un temp track, prend souvent le pas sur la créativité des compositeurs qui se retrouvent à devoir faire de la copie. Alors pour en revenir à 2001, la musique temporaire a bien trop plu à Stanley Kubrick et à ses producteurs qui n'ont pas su s'en débarrasser. Et tant pis pour Alex North qui avait composé et enregistré près d'une heure de musique. Là où Kubrick n'a pas été très chic, pour une fois, c'est qu'il ne l'a pas dit à Alex North et qu'il a découvert lors de l'avant-première que sa musique ne se trouvait pas dans le film. Écoutons ensemble un morceau de sa partition. Oui, vous vous dites sûrement, mais ça n'a pas du tout la même ampleur que 2001. Ben, vous avez plus ou moins raison. Alors déjà, il est terriblement difficile de juger la musique rejetée pour un film aussi célèbre que 2001 et qui a été vu, analysé et parodié des milliers de fois. De plus, la partition de Alex North est un excellent exemple de musique atonale, sans mélodie, et elle semble désordonnée, étrange et maladroite. Elle vient d'un autre monde, et il ne fait aucun doute que la première idée de Kubrick a été de donner à North le rôle de moderniser les compositions classiques qu'il avait choisies pour son montage temporaire. Le morceau que je vous ai passé il y a quelques secondes vient illustrer la fameuse scène où les primates trouvent un os et le jette sur le monolithe. Dans le film final, cette scène n'est pas mise en musique, mais elle est directement suivie par le Beau Danube Bleu composé par Johann Strauss II, où l'on voit le vaisseau s'arrimer à la station spatiale. Ce n'est pas ce morceau que je vais vous passer tout de suite, puisqu'en plus de Johann Strauss II, Ligeti ou Richard Strauss, Kubrick a intégré à son film le compositeur arménien Aram Khachaturian, et qui a composé pour son ballet Gaïané un magnifique adagio. Ce morceau illustre la mélancolie et la lenteur du voyage. Espace était utilisé pour l'arrivée du vaisseau spatial aux alentours de Jupiter. Écoutons-le ensemble tout de suite. Thank you. Si vous suivez les planètes depuis quelques temps, vous aurez reconnu ce morceau puisque je vous ai passé une piste de Aliens composée par James Horner et qui s'inspire directement de ce magnifique adagio. Et je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans l'ensemble de l'œuvre de Khachaturian, un compositeur remarquable et extrêmement écoutable. Restons dans les parages d'Alien, puisque je vais vous passer le thème principal du premier film de la série, écrit par Jerry Goldsmith, que l'on a déjà entendu ici, principalement grâce à son travail sur Star Trek 1, Star Trek 5, Star Trek 8, 9 et 10. Pour Alien, le compositeur américain a écrit plus d'une heure de musique absolument magnifique, à la fois stressante et étrangement romantique, avec un très très beau thème. Goldsmith se base sur le travail de Georgi Ligeti et de Béla Bartók, deux compositeurs importants de la musique contemporaine, qu'on a déjà entendu sur 2001 et qu'on réentendra aussi un jour dans The Shining de Stanley Kubrick. Mais aussi, Goldsmith s'est inspiré de l'œuvre de Maurice Ravel, sans doute le compositeur, compositeur français qui l'a le plus inspiré. Alors au programme, il y a de l'atonal, bien évidemment, mais aussi ses échos et ses sons métalliques que l'on avait entendus ensemble sur le premier film Star Trek qui servait à illustrer le personnage des Klingons. Le morceau utilisé, appelé Ecoplex, l'instrument utilisé, pardon, appelé Ecoplex, permet de créer ces sonorités qui semblent venir d'un autre monde. Goldsmith utilise aussi le fameux triton, un intervalle de notes que l'on appelle aussi Diabolus in Musica, et au XVIIe siècle, jugé trop dur et dissonant, cet intervalle était souvent évité. Cette sonorité se transforme petit à petit dans l'esprit des compositeurs et des auditeurs, et devient un son entre guillemets maléfique qu'il faut absolument éviter. C'est donc absolument normal de retrouver ici pour illustrer le personnage de l'alien. Alors ce que Goldsmith a écrit pour Alien décrit à mon sens le mieux le froid et le vide absolu de l'espace. Malheureusement pour lui, et aussi un peu pour nous, Ridley Scott et son monteur ont charcuté la musique dans le film, presque aucune piste n'est au bon endroit, et ils ont réutilisé des musiques d'un autre film de Goldsmith pour illustrer certaines scènes. En plus de ça, la musique de fin a été entièrement virée et remplacée par une symphonie écrite par Hanson. Bref, c'est un véritable charcutage, mais qui prouve que la musique de film n'est qu'un outil au service du film, et que lorsque le réalisateur et ou le monteur, dans ce cas précis, sentent qu'il est normal et naturel de modifier la création musicale, je pense que c'est pour le bien du film. Je ne pense pas qu'Alien aurait été mieux avec la musique complète de Jerry Goldsmith. Je vous propose d'écouter le premier morceau du film avec le générique et le réveil du Nostromo qui s'appelle Main Theme. Thank you. Après Alien, continuons sur notre lancée de films d'horreur dans l'espace avec Life Force, un film de Tobe Hooper, sorti en 1985, Tobe Hooper qui est très connu pour avoir réalisé Poltergeist. Le film commence comme Alien, des astronautes rencontrent une créature étrange dans un vaisseau abandonné, puis ça devient un Body Snatchers, puisque la créature est en fait une sorte de vampire qui peut changer d'apparence, et ça tourne enfin au film de zombies, puisque tout le monde devient un vampire de l'espace. Alors pour Life Force, Tobe Hooper a engagé Henry Mancini, que vous connaissez tous, puisqu'il est mondialement célèbre pour des partitions comme La Part des Roses ou Breakfast at Tiffany's. Alors oui, ça paraît bizarre comme ça, mais avant de faire du easy listening pour Blake Edwards et des chansons, Henry Mancini a travaillé pendant plusieurs années chez Universal en tant que compositeur sur des films de série B. Et si je vous dis It Came from Outer Space ou The Creature from the Black Lagoon, ce sont en fait des musiques d'Henry Mancini qui n'étaient à l'époque pas créditées. Sa composition pour Life Force est assez étrange et a d'ailleurs été partiellement remplacée aux USA par un score plus mystérieux et électronique écrit par Michael Kamen. Henry Mancini a mélangé un thème épique et pompier à de la musique atonale, très écrite et mystérieuse, qui rappelle sans problème le travail de Goldsmith sur Alien. Alors je vous passe le morceau Exploration, qui intervient lorsque les astronautes visitent l'intérieur du vaisseau Alien. Faites bien attention aux voix féminines en arrière-plan qui soulignent la musique en continu. Et il y a dans le vide, dans Life Force, il y a dans le vide quelque chose qui bouge et qui remue. Laissons de côté un instant la musique orchestrale pour deux pistes plus électroniques, une ancienne et une récente, mais toutes deux composées pour l'adaptation du livre de Stanislas Lem, Solaris. Sortie en 1972, la version réalisée par Andrei Tarkovsky est mise en musique par Edouard Artemiev, dont le compositeur utilise alors le synthétiseur ANS, l'un des tout premiers appareils électroniques permettant de le faire de la musique, et qui en vérité interprète les déformations sur une surface. En fait, l'ANS lit une sorte de partition que l'on écrit. Je vous conseille vraiment de regarder sur internet comment ça fonctionne, c'est assez formidable. ANS Synthesizer. Artemiev se retrouve donc composé à la fois de la musique, pour laquelle il emprunte d'ailleurs beaucoup à Bach, et des effets sonores, chose que nous retrouvons aussi dans le film Gravity, composé par Steven Price. En attendant, je vous laisse avec le très très étrange morceau Station, mais qui n'est clairement pas le morceau le plus bizarre du CD, qui est absolument formidable. Si vous aimez un tant soit peu la musique électronique, jetez-vous sur le travail d'Edward Artemiev, notamment pour Solaris, puisqu'elle a composé des choses remarquables. Il existe d'ailleurs un excellent CD sorti en France chez le label Milan, qui est disponible sur Amazon, il me semble, et qui regroupe les musiques de trois films de Tarkovsky, donc Stalker, Le Miroir et ce Solaris, où il y a un morceau de 11 minutes absolument magique. Autre adaptation de Solaris, mais changement de ton total, il s'agit toujours d'un drame autour d'un psychologue qui voit apparaître le fantôme de sa femme disparue, mais cette fois c'est le sémillant George Clooney et non pas un russe inconnu qui s'y colle avec Steven Soderbergh à la réalisation. La musique, composée par Cliff Martinez, est un petit bijou avec au programme des marimbas, du glass harmonica, des bols tibétains, des cuivres et des bois tout en douceur, un peu d'atonal et énormément d'électronique qui viennent donner à la musique un aspect glacé et cristallin, absolument superbe et qui sert à décrire la planète Solaris, une planète entièrement composée d'eau. Le morceau que vous allez écouter laisse sans problème transparaître l'inspiration principale de cette partition, qui n'est autre que Steve Reich, l'un des pères de la musique minimaliste avec Philip Glass et John Adams. C'est parti. Thank you. Pour les deux derniers morceaux, j'ai choisi une piste très courte et une piste plutôt longue. Sorti en 1997, le film américain Contact, réalisé par Robert Zemeckis, part sans doute plus de religion et de croyance que d'espace. Toutefois, lorsque Jodie Foster arrive dans l'espace, il y a des séquences très très belles avec une magnifique musique. Silverstreet a composé un très beau morceau qui s'appelle No Words. Éthéré, simple, tout en douceur, il repose tranquillement le thème principal du film avant de le laisser briller. Là où ce morceau est vraiment remarquable, c'est que Silverstreet utilise le piano, qui donne une couleur toute particulière au vide, habituellement relégué aux cordes et aux nappes électroniques, à la musique atonale ou aux voix féminines mystérieuses. Et pour une fois, avec le piano, cet endroit a l'air incroyablement paisible et plein de poésie. Je vous laisse écouter tout de suite ce morceau. Bon, vous avez déjà deviné le morceau suivant, n'est-ce pas ? Comment faire un film sur l'espace sans parler de Gravity, réalisé par Alfonso Cuarón et sorti en 2013 ? Alors, comme Artemiev plus tôt, Steven Press, qui s'occupe de la musique, s'est retrouvé avec la double casquette de compositeur et de bruiteur, puisque lors des scènes dans l'espace, la musique est à la fois extra-diégétique, donc comme toute musique de film, elle n'existe pas dans la réalité des personnages, et à la fois diégétique, puisqu'elle semble bruiter les images que l'on voit. Price fait donc jouer des déformations sonores, il installe dans sa musique des bips et des bruits d'aspiration, et pour le morceau Parachute, que l'on va écouter tout de suite, il va jusqu'à représenter les débris qui passent derrière le personnage de Ryan Stone par des cordes qui apparaissent et disparaissent. Et puis 2 minutes avant la fin du morceau, il fait tout éclater, aussi bien la musique que la station spatiale russe derrière le personnage de Sandra Bullock. La musique devient alors beaucoup un peu plus classique, crescendo, cordes claquées, rythme qui s'accélère, c'est vraiment une merveille. La musique de Gravity est avant tout un brillant travail de monteur et de bruiteur, surtout pour le morceau Parachute, donc que nous écoutons tout de suite. En version tronquée, je vous ai retiré les 2 premières minutes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, cet épisode a été produit par Radio Kawa et est disponible en téléchargement sur le site radiokawa.com ainsi que sur iTunes. Le prochain épisode est prévu pour le jeudi 29 janvier 2014 et nous parlerons d'un instrument absolument incroyable, le saxophone. En attendant le futur, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @lesplanètesrk, et de vous abonner soit sur le site de Radio Kawa directement, soit sur votre cher et tendre iTunes. Et comme toujours, laissez vos commentaires, laissez-moi vos critiques, ils font plaisir et me permettent d'améliorer ce podcast. Rappel des morceaux écoutés lors de ce 9e numéro, nous avions Bones, composé par Alex North pour le film de Stanley Kubrick 2001 A Space Odyssey, Guyanese Adagio, composé par Aram Ilichka Chaturian pour le ballet guyanais, Alien Man Theme, composé par Jerry Goldsmith pour le film de Ridley Scott Alien, Exploration, composé par Henry Mancini pour le film Life Force, Station, composé par Edouard Artemiev pour le film Solaris de Andrei Tarkovsky, Wear Your Seatbelt, composé par Cliff Martinez pour le film de Steven Soderbergh, Solaris, No Words, composé par Alan Silvestri pour son fidèle ami Robert Zemeckis et pour le film Contact, et enfin Parachute, composé par Steven Price pour le film de Alfonso Cuarón, Gravity. Et pour terminer notre morceau final, comme je vous le disais plus tôt, le Untitled, composé par Jerry Goldsmith pour Alien, ne se trouve pas dans le film et c'est, je pense, un drame. Alors, je vous propose de l'écouter ici et maintenant pour que vous puissiez entendre et apprécier cet incroyable thème romantique. Si la musique d'Alien vous a plu pendant ce podcast, je vous conseille réellement de trouver la version Intrada qui contient deux CD. Sur le CD 1, la musique du film composée par Goldsmith, et sur le CD 2, le CD original qui était sorti en 79. Il y a à l'intérieur un livret qui contient des informations absolument incroyables sur le travail de Goldsmith, sur l'enregistrement, sur le montage, et qui prouve que la musique de film, c'est vraiment, vraiment compliqué, et que ça mérite d'avoir des livres et d'en parler pendant des milliers d'heures. J'en profite pour dédicacer le morceau qu'on va écouter tout de suite à Julien, Rudy et Mike, qui j'ai l'habitude de chanter ce thème très régulièrement, comme ça, histoire de leur faire peur. Je vous laisse écouter donc le Untitled de Alien, et nous on se retrouve la prochaine fois.